mes dessins ce matin, parce que je trouve que c'était bien pédagogiquement de pouvoir dire un texte et en même temps la commande de dessin. Mais ça... Alors, ce matin, nous allons méditer sur le chapitre 4 de cet épître. Alors, je ne vais pas lire le texte, parce que je vous ai demandé de le lire la semaine dernière. Et je pense que tout le monde l'a lu. Pour ceux qui n'ont pas lu, on le lira à la maison. Alors, ce matin, ce texte de Éphésiens 4 va nous parler d'un thème central qui est l'unité. Alors, si Paul parle d'unité, ce n'est pas pour dénoncer des divisions qui toucheraient l'Église d'Éphèse. Non, c'est pour exhorter l'Église, les chrétiens en général, juifs et non-juifs, à vivre selon l'ordre de Dieu, en montrant l'exemple par un témoignage qui honore Dieu. Alors, lorsque Paul écrit sa lettre aux chrétiens d'Éphèse, eh bien, c'est un homme privé de liberté qui écrit. Il dit « Je vous exhorte, moi, le prisonnier dans le Seigneur ». Et cette introduction est très importante et mérite qu'on s'y arrête un instant, car elle offre un double sens. Tout d'abord, elle offre un sens qui est assez évident, c'est le sens propre. Paul est spécifiquement prisonnier. Et d'après Altecune, l'apôtre est en prison. Il est en prison à Rome, aux alentours de 61, après Jésus-Christ, à cause de sa foi pour Jésus. Et selon ton prisonnement, le mènera, selon les exégètes, à la décapitation en 64 sous le règne de Néron. Alors, par cette évocation, Paul montre sa détermination à suivre le Seigneur jusqu'au bout et quoi qu'il en coûte. C'est quelque chose de dur, mais qui est une réalité. Mais il y a un second sens qui est bien moins évident, c'est qu'il marque la situation spirituelle de Paul. Paul, depuis sa conversion, Et jadis, prisonnier Satan, il est aujourd'hui prisonnier du Christ. Romains 6, 16, « Vous êtes esclaves, dit Paul, de celui à qui vous obéissez. » Et en décidant d'obéir à Christ, eh bien, Paul est devenu un homme libre. Or, l'homme libre, eh bien, est un esclave du Christ, selon 1 Corinthiens 7, 22. Alors, prisonnier du Christ, Paul parle à la présence par la puissance du Saint-Esprit. Et sa parole était inspirée. L'apôtre n'a plus d'autre choix que de faire ce que le Fils lui demande. Et vous rappelez ces paroles de 1 Corinthiens 9,16, où Paul dit « La nécessité m'est imposée d'annoncer l'Évangile, et malheur à moi si je ne l'annonce pas. » Frères et sœurs, celle ou celui qui appartient à Christ ne le fait qu'un avec lui. Il pense comme Christ. Or, dit Paul aux Corinthiens, nous avons la pensée du Christ. J'espère, nous avons la pensée du Christ. Frères et sœurs, avons-nous ce matin la pensée du Christ pour bien comprendre sa volonté? Voulons-nous entendre nous parler ce matin sur ce grand sujet qui est l'unité? Alors, Paul est ici dans son rôle de père de l'Église lorsqu'il encourage chaque chrétien à avancer dans sa vie selon l'appel qu'il a reçu de Dieu, en utilisant tous les dons qu'il lui a accordés pour le servir. Alors, il est toujours aussi dans son rôle lorsqu'il les encourage à grandir spirituellement et à vivre d'une manière digne, honnête, afin que Dieu soit honoré, glorifié par leur témoignage. Vous savez que tout ce qui divise l'Église, tout ce qui sépare les frères et sœurs, ne glorifie pas Dieu. Au contraire, tout ce qui unit, rapproche, honore le Seigneur. L'unité de l'Église témoigne de l'amour éternel de Dieu. L'unité, c'est ce que Dieu veut pour son peuple. Car Dieu lui-même, il est un. Alors ça veut dire quoi? Dieu est un. Alors c'est précisément ce que dit Jésus dans l'Évangile de Jean, chapitre 10, verset 13. Il dit « Moi et le Père, nous sommes un. » Alors, pour bien comprendre ce qu'est l'unité, je pense qu'il est important de bien comprendre qui est Dieu. Et Dieu est un Dieu trinitaire. Alors, comme le but de ce message n'est pas de parler de la Trinité, je ne ferai pas une étude théologique sur le sujet, mais j'ai essayé d'expliquer le plus simplement possible ce qu'est la Trinité, qui, je le rappelle, figure dans la confession de foi de notre Église. Alors, c'est le terme de Trinité ne figure pas dans la Bible. Il apparaît très tôt dans l'histoire de l'Église, cependant. Dès le IIe siècle après Jésus-Christ, sous la plume d'un théologien de Carthage, Tertullien. Bien qu'absent de la Bible, eh bien, tous les ingrédients de la Trinité figurent dans les Saintes Écritures. La Trinité est une révélation découlant des sages déductions des vérités bibliques. Je vous donne un exemple. Si l'Écriture, par exemple, parle d'un animal gris, énorme, avec quatre pattes, deux grandes oreilles, une trompe et deux éléphants en ivoire, tout le monde peut comprendre qu'il s'agit d'un éléphant, même si ce n'est pas écrit. Bon, pour la Trinité, c'était pareil, c'était pas écrit, mais tout y est. Le mystère de la Trinité, Jean-Pierre a parlé du mystère ce matin, mais le mystère de la Trinité, pour le commun des mortels, la Trinité, c'est une énigme, un véritable mystère. Pour les chrétiens, c'est un acte de foi, une vérité qu'il faut accepter, une réalité qu'il faut connaître. Dans la Bible, nous trouvons trois entités, trois personnes qui portent le nom de Dieu. Le Père, l'Éternel, qui est Dieu. Le Fils, Jésus, qui est Dieu aussi. Et le Saint-Esprit, le Consolateur, qui est aussi Dieu. Et nous avons donc bien trois personnes différentes, mais un seul Dieu, conformément aux Écritures. Je suis l'Éternel, ton Dieu. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Il y en a qu'un. Exode 20, versets 2 et 3. Donc, nous avons quand même une équation bien étrange, capable d'appeler les raisonnements mathématiques les plus coriaces. 1 plus 1 plus 1 égale 1. Et non 3. Pour le dire autrement, il y a un seul Dieu en trois personnes. Alors là, on va bien s'accrocher. Nous sommes en présence de trois personnes distinctes, différentes, ayant chacune sa personnalité, ses propres activités dans l'unité. Ces personnes sont égales entre elles. Elles sont inséparables et liées entre elles par un amour puissant et éternel. Chaque personne est dotée de tous les attributs divins, à savoir l'éternité, ni commencement, ni fin. La spiritualité, elles sont esprits. La toute-puissance, présente partout. La toute-science, elle sait tout. La toute-puissance, elle peut tout. Et la souveraineté absolue, elle contrôle tout, et puis aussi la sainteté. Voilà, chaque personne. Alors je vais vous donner un exemple qui vaut ce qu'il vaut, mais qui peut nous aider à comprendre la Trinité. Nous sommes trois anciens dans l'Église, Jean-Haut, Jean-François et moi. Et nous sommes tous les trois différents. On n'a pas le même âge. Jean-Haut vient de Corée, Jean-François, je pense, vient d'Alsace. Et moi, je viens de Nancy. Je suis ici. Nous avons un vécu familial et culturel différent, mais aussi des capacités et des dons spirituels différents. Mais aussi chacun d'une personnalité différente. Pourtant, ensemble, nous travaillons dans l'Église, dans le respect et l'amour avec une âme de berger. Nous sommes égaux entre nous, personne n'est le chef de l'autre. Nous exerçons ensemble l'autorité spirituelle dans l'Église et nous prenons ensemble des décisions et essayons de travailler dans un esprit commun et dans un respect mutuel. Trois anciens, trois personnes, mais une seule autorité spirituelle, une seule loi. On parle d'une seule loi pour les essayer en tout cas. Voilà, nous essayons dans l'Église de reproduire l'exemple d'unité instituée par la Trinité. Là, je vous ai mis un texte sur le symbole dit d'Athanas, écrit dans les années 500. Mais j'ai mis 12 écrits derrière, vous pouvez les prendre, on ne va pas le lire ce matin parce que ce serait trop long. Cette unité divine est présente tout au long de la Bible et principalement dans la création. Lors de la création, les trois personnes étaient présentes, apportant chacune à la fois sa compétence, son originalité et sa touche créatrice. La Trinité est à l'œuvre dans la création dès le commencement. L'Éternel Dieu décide de créer les cieux et la terre. C'est le Père créateur. Verset 1 de Genèse 1. Et puis l'Esprit Saint est présent. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Genèse 1, verset 2. Et puis Jésus, c'est la parole créatrice. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Verset 3 de Genèse 1. Nous savons d'ailleurs par la révélation de Jean que Jésus était bien présent. Jean 1, verset 1. Au commencement, était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. On comprend bien, là. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Or, la parole, on le sait, c'est Jésus. Voilà. Rien n'a été fait sans Jésus. L'exemple d'unité que Dieu donne à travers la Trinité, il l'a poursuit dans ses dons pour l'Église. Et il donne aux chrétiens un seul corps. Des fois, on imagine plusieurs églises, non l'Église avec un seul chef, le Seigneur Jésus-Christ, Éphésiens 5, 23. Christ est le chef de l'Église qui est son corps, et dont il est le sauveur. Nous sommes l'Église, nous sommes le corps du Christ, et Jésus la tête, une seule Église. Il envoie un seul et même esprit. Des fois, on dit qu'il y a plusieurs esprits, ou que l'esprit, on l'apprend tous de la même manière. Il envoie un seul et même esprit. Il n'y en a pas d'autre. Le Saint-Esprit du Christ que nous recevons à la conversion. 1 Corinthiens 3,16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Qu'un seul esprit. Il n'y a qu'un seul esprit en nous et dans l'Église. L'Esprit de paix et d'unité. Dieu nous donne une seule espérance. Il n'y en a pas 36. C'est la vie éternelle. Nous avons placé notre espérance en Dieu. Cette espérance qui nous conduit à la vie éternelle, est-ce que vous avez cette belle espérance? 1 Timothée 1:1, c'est Jésus-Christ qui est notre espérance. Est-ce que nous avons cette espérance de la vie éternelle en Jésus-Christ? Nous avons une seule et unique foi. La foi qui agit. 2 Corinthiens 4:13. Nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture. J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. La foi, c'est celle qui témoigne. Il n'existe qu'un seul baptême. On voudrait nous faire croire qu'il y en a plusieurs. Non, il n'existe qu'un seul baptême. Le baptême en la mort du Christ. Romains 6, 4. Nous avons été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort. C'est en mourant au péché avec Christ que nous pouvons renaître pour une vie nouvelle en Christ. Un seul baptême. Le Dieu trinitaire donne une unité de croyance autour de laquelle se regroupe l'Église, fondée sur Christ et dirigée par son Esprit qui habite en chaque chrétien. Le Dieu trinitaire prend aussi soin du bon fonctionnement de son Église en donnant à chaque chrétien des charismes. Dieu arme ainsi l'Église avec des dons, et les divers dons accordés par le Christ sont destinés à fortifier cette unité. L'unité de l'Esprit est conservée lorsque chaque chrétien reconnaît les dons de l'autre. C'est pour ça que c'est important de reconnaître chacun nos dons. Sachant que tous les charismes, si divers soient-ils, contribuent à la même tâche. L'édification du corps unique, la construction de l'Église. Le Dieu trinitaire donne également des hommes et des femmes pour guider et diriger son peuple. Ce sont les pasteurs, les missionnaires, les anciens qui sont des bergers, mais aussi des prophètes, des enseignants qui vont nourrir spirituellement l'Église. Il y a aussi des évangélistes qui vont faire grandir en nombre le peuple de Dieu. Toutes ces personnes travaillent ensemble en complémentarité, mais surtout ensemble dans l'unité et dans l'amour, pour faire de l'Église un solide assemblage, équilibré, qui avance sur la route droite voulue par Dieu. Ça, c'est l'unité de l'Église voulue et donnée par Dieu. Voilà. C'est ça que Dieu attend de nous. Alors revenons un instant au commencement, lorsque le Dieu trinitaire créa le ciel, la terre et tout ce qui la peuple. Il le fit dans l'unité la plus parfaite qui soit. Chaque personne de la Trinité s'exprimant en toute liberté, selon ses différences. Car chaque personne est différente, et ça c'est important. Il faut qu'on reconnaisse aussi nous nos différences, on les accepte comme une force. Même si on est unis, on est quand même différent. Alors cette fois, on aurait pu avoir un monde en noir et blanc, un monde de plat, sans relief, sans harmonie, sans imagination, un monde uniforme avec une seule espèce d'animal, une seule espèce de plante, une seule race humaine. Au lieu de cela, nous avons une pluralité de pensées. une véritable symphonie de variétés, d'espèces et de formes, une palette de couleurs, de senteurs et parfums. C'est magnifique, la Terre. C'est magnifique. Frères et sœurs, cette unité créatrice, cette libre expression des différences, a fait briller du cœur de la Trinité ce cri de bonheur. Vous vous souvenez, cela est bon. Vraiment, ils se sont réjouis parce que c'était bon. Les différences sont une force, un atout, lorsqu'elles peuvent s'exprimer dans l'amour, la liberté et l'unité. Mais ce monde n'est malheureusement plus le monde que Dieu a créé, puisque le péché l'a hélas défiguré. Tout ce que je vous dis, vous le savez déjà, mais le rôle du prédicateur, c'est de répéter sans jamais se décourager. Alors oui, nous évoluons dans un monde qui a clairement choisi de rejeter Dieu. Vous le voyez quotidiennement. Il souffle sur notre société, il souffle un esprit qui n'est ni sain, ni paisible, ni égalitaire. Les différences, au lieu d'être une force, elles font peur. Nous vivons au cœur d'un monde sectaire, individualiste, où règne la loi du chacun pour soi. C'est aussi le monde de l'orgueil. Lors de nos dernières vacances avec Guardia et Solène, nous sommes allés en Afrique du Sud, Et à Johannesburg, nous avons fait une visite que franchement, je ne dirai jamais. Christian aussi était là. Celle du musée de l'apartheid. C'est un musée de l'horreur à taille humaine. L'apartheid, c'est une politique de séparation des races qui donne tout pouvoir à l'homme blanc. Le guide noir qui nous accompagnait, les larmes dans les yeux, a eu cette phrase. Qu'est-ce qu'il fait qu'un homme blanc arrivant dans un pays qu'il ne connaît pas, considère les habitants noirs du pays comme des sous-hommes et les maltraite. L'orgueil. C'est aussi le monde de la dureté, le monde du non-pardon et de la violence. C'est le monde de l'argent. Certains en accumulent un si grand nombre, en si grande quantité, qu'ils ne pourront jamais tout dépenser durant leur vie. Alors que d'autres meurent de faim, sans que cela n'émeuble le moindre du monde leur conscience. Il y a quelques années de cela, j'en sais pas loin, je suis passé à Calcutta en Inde. C'est une ville que je n'ai plus vu. Et j'ai vu de mes yeux des maisons d'une richesse inimaginable. Et les pauvres mourir devant la maison des riches sur le trottoir. Et le matin, il y avait un camion poubelle qui venait évacuer les corps dans une indifférence générale. C'est ça la dureté du cœur. C'est aussi le monde de l'insatisfaction, de l'impatience. Tout de suite, je veux tout maintenant. C'est un monde exigeant. Et quand on pratique comme ça, on a du mal à se construire. C'est enfin le monde de la haine, de la guerre, des divisions. On ne respecte ni l'enfance, ni les cheveux blancs. On s'entre-déchire, on se détruit. Voilà, c'est ça le monde. Paul, dans sa lettre aux Éphésiens, décrit ce monde en ces termes. Ce monde marche selon la vanité de ses pensées, il a l'intelligence obscurcie, il est étranger à la vie de Dieu, à cause de l'ignorance qui est en lui, à cause de l'endurcissement de son cœur. Ayant perdu tout sentiment, il s'est livré au dérèglement pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Éphésiens 4, versets 17 à 19. Alors, frères et sœurs, quel intérêt, me direz-vous, à rappeler des tristes réalités que nous connaissons tous? Eh bien, nous en sommes les spectateurs privilégiés chaque jour. Normalement, ça devrait suffire à nous édifier. Et c'est aussi parce que ce monde que nous critiquons, dont nous subissons les néfastes effets, eh bien, c'est notre monde, le monde dans lequel nous vivons, et surtout le monde dont nous sommes issus, et dans lequel nous avons été acteurs. Autrefois païens, nous avons marché selon l'esprit de ce monde pervers et perdu. Nous étions parmi eux. Alors aujourd'hui, comme Paul, je le souhaite à tous, nous sommes aujourd'hui prisonniers du Christ. Nous avons été rachetés, graciés, sauvés par le sang précieux du Christ qui a coulé pour chacun de nous à la croix. Frères, sœurs, Christ est mort à la croix pour nous sauver de la mort éternelle, de l'enfer. Mais si le sacrifice de Jésus n'avait que pour but le salut, nous serions un peuple de rachetés, de sauvés, mais pas un peuple transformé. Alors ça veut dire quoi, ce que je viens de dire? Ça veut dire qu'être sauvé, c'est bien, c'est une grâce, mais que Jésus veut aussi nous transformer par son esprit. Romains 8, 29, ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Voilà, sauvés, oui, mais transformés en plus. Nous l'avons dit, nous sommes profondément marqués par l'esprit de ce monde. Vous savez, pour donner une image, c'est quelqu'un qui serait vêtu d'habits sales, déchiré et puant. Voilà l'image de l'homme du monde. Paul emploie plusieurs expressions appelant au changement. Il dit par exemple, dans Éphésiens 4, il dit « Renoncez, dépouillez-vous en Christ, soyez renouvelés, revêtez l'homme nouveau. » Nous sommes appelés à être profondément transformés par le Saint-Esprit, à enlever l'habit sale pour revêtir l'habit neuf et propre. Alors, il y a deux duos, il y a des duos, il y a des binômes. Soyez renouvelés et renoncez. Voilà, soyez renouvelés et renoncez. Comment peut-on renoncer à une addiction, par exemple, comme la cigarette, si on ne prend pas conscience de sa dangerosité et si on n'est pas aidé? C'est vrai, on peut savoir que la cigarette, c'est pas bon pour nous, mais bon. Le Saint-Esprit qui est en nous a un double rôle. Premièrement, transformer, renouveler notre intelligence, transformer notre façon de penser. Deuxièmement, nous aider à pratiquer le changement dans nos vies, à renoncer à tout ce qui est mauvais et constitue une entrave à l'unité. Renoncer au mensonge, dit Paul, puisque nous vivons dans la vérité à présent et que la vérité est un élément d'unité dans nos relations. Renoncer à la colère. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère, dit Paul. Renoncez au vol, qui crée un sentiment d'insécurité, donc de méfiance et de division. Renoncez aux paroles mauvaises, injures, médisances, flatteries, hypocrisie, qui créent des divisions entre chrétiens. Dépouillez-vous en Christ et revêtez l'homme nouveau. Voilà un deuxième duo. Il y a à la fois cette image, cette notion de se débarrasser d'un habit sale, du vieil homme, de le jeter à la poubelle pour le remplacer par un habit neuf, l'homme nouveau. Alors ce changement, cette transformation, cette sanctification, c'est l'œuvre du Saint-Esprit en unité avec nous. Cette transformation a pour but de faire de nous des femmes et des hommes unis, capables de vivre dans l'unité. La sanctification s'articule autour de quatre axes. Se dépouiller de l'orgueil pour revêtir l'unité, dit Paul. L'orgueil, c'est le caractère de ce monde et de Satan. C'est ce qui pousse l'homme à rechercher son intérêt en cherchant à dominer ou manipuler les autres. C'est un facteur de division, l'orgueil. L'humilité, au contraire, c'est le caractère du Christ qui s'est dépouillé pour nous en prenant une forme de serviteur. Lui, le vrai Dieu, il est venu semblable aux hommes. C'est cet esprit de serviteur des autres que nous devons revêtir. Deuxièmement, se dépouiller de la dureté pour revêtir la douceur. On a dit que ce monde est dur et sans cœur, il laisse de nombreux blessés au bord de la route. C'est le monde de la culpabilité. La douceur est un attribut du Christ. Matthieu 11, 29, « Je suis doux et humble de cœur, dit Jésus. » Jeune Marc Arthur écrit, « La douceur, c'est la puissance contrôlée. C'est la puissance sous le contrôle de Dieu. » Une personne douce est normalement tranquille, reposante. Elle agit sans brusquerie et ne se venge pas, ne s'affirme pas et ne tient pas rancune et ne se tient pas sur la défensive. En réalité, celui qui est doux est quand même capable de juste colère et d'action lorsque la parole de Dieu est attaquée. Une des caractéristiques de la véritable douceur, c'est le contrôle de soi, mais aussi la soumission à la parole de Dieu. Le doux, c'est aussi un pacificateur qui pardonne facilement et qui aide les autres à se relever. Le troisième, c'est se dépouiller de l'exigence pour revêtir la patience. Nous l'avons dit, ce monde est exigeant, il veut tout, tout de suite, maintenant. Attendre, construire patiemment, espérer, c'est au-dessus de ses forces. On le voit des fois dans le mariage, où les gens ne prennent pas le temps de construire. La patience est une attitude qui découle de l'humilité et de la douceur. Celui qui est patient supporte les circonstances difficiles. Sans céder au découragement, Comme Paul, il est prêt à supporter les difficultés. Il est prêt à supporter les afflictions, le ridicule et même la persécution pour servir patiemment son maître. Il accepte le plan de Dieu pour toutes choses et attend sans se décourager la réalisation des promesses. Et puis le dernier, se dépouiller de la haine pour revêtir l'amour. Donc on l'a vu, ce monde est bien dominé par la haine, qui déclenche des guerres, brise des amitiés, détruit des couples et des familles. Proverbe 10-12, la haine excite des querelles. L'amour, au contraire, couvre toutes les fautes. L'amour, dit Paul, supporte tout. Elle supporte quelques injustices de la part des autres. Alors, dans l'Église, c'est important qu'on supporte quelques injustices. Ça n'est pas une Église parfaite. C'est un amour sans réserve et désintéressé, un amour qui est prêt à donner, qu'il en retire quelque chose ou pas, un amour qui s'étend même à ses ennemis et prie même pour ses persécuteurs. Tous ces facteurs de changement d'attitude qui nous appellent à nous dépouiller pour nous revêtir sont des éléments qui contribuent à conserver l'humilité. Quand on possède l'humilité, la douceur, la patience et l'amour, eh bien, c'est qu'on est tout à fait capable de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Alors, se dépouiller, se revêtir, peut-être ce matin, vous dites-vous, oui, c'est bien, ce qu'il vient de dire, Daniel, mais concrètement, comment on fait? Moi, je n'arrive pas. Prenons l'exemple de l'orgueil. En peu de temps, je serai forcément schématique pour l'expliquer, mais tout d'abord, on va mettre Christ au centre de notre réflexion. Ça, c'est important. Christ au centre. Et commencer par cette exhortation de Paul, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Autrement exprimé, l'esprit nous invite à nous revêtir d'humilité, mais la chair, notre nature charnelle, peut nous retenir dans l'orgueil. Elle veut nous retenir dans l'orgueil. Alors, il y a 5 étapes par lesquelles il faut passer. Le premier, c'est marcher. Voilà, marcher selon l'esprit. Nous sommes, comme dans le mariage, invités à prendre des décisions. Oui, Seigneur, je désire m'engager dans la voie du changement. L'orgueil, par exemple, me pèse. J'y arrive pas. Deuxième sérénité, ce n'est pas nous qui nous dévêtons. Nous en sommes bien incapables. Si c'était possible, on l'aurait déjà fait depuis longtemps. C'est l'action du Saint-Esprit avec notre collaboration. L'Esprit nous exhorte à changer, à quitter nos habits sales. On l'a vu tout à l'heure. On peut dire aussi, je n'y arrive pas, Seigneur. J'essaye bien, mais j'échoue tout le temps. Je retombe. Et l'Esprit veut dire, mais accepte ton impuissance. Laisse-moi faire et fais-moi confiance. Et ça, c'est des fois le plus dur. C'est de lâcher prise. Frères, sœurs, laissez faire l'Esprit, ça devrait être facile. Moi, si on me dit, Daniel, t'as rien à faire, ça devrait être facile. Et bien, en fait, c'est très, très difficile. C'est très dur parce que Dieu peut m'amener là où j'ai peur d'aller, où j'ai pas envie d'aller, dans des endroits où j'ai vraiment pas envie d'aller. Il peut m'amener dans des endroits, par exemple, d'humilité importante. Et puis la confiance. Ai-je vraiment confiance que là où l'Esprit va me mener, ce sera le meilleur pour moi? Voilà. Si je n'ai pas confiance, je n'y vais pas. Et puis, cinquièmement, la lutte contre la nature charnelle. Notre nature charnelle, notre vieil homme n'est pas mort. Vous savez qu'il a été crucifié à la croix, mais il n'est pas mort. Il ne veut pas se débarrasser de l'orgueil. Alors il va lutter contre l'esprit du Christ qui veut nous dépouiller. Il va mettre des freins. Il va lui faire la guerre. De quel côté sommes-nous? Plus nous sommes en unité avec Christ, plus nous lâchons prise, plus nous faisons confiance à Dieu, et moins le vieil homme a de pouvoir. Frères et sœurs, c'est à ce prix qu'on peut se dépouiller et se revêtir. On ne peut pas le faire seul, c'est pas possible. C'est un long travail de l'esprit, c'est la sanctification, avec parfois des combats difficiles. Il ne faut ni avoir peur, ni avoir honte de se faire aider. Par des grands murs, par des anciens dans l'église, par en chemin. Il ne faut pas hésiter à aller voir des personnes qui peuvent nous aider. Ce n'est pas un déshonneur. Frères et sœurs, vous avez sans doute noté que Paul ne dit pas que c'est l'église qui doit créer l'unité. Ce n'est pas l'Église. L'Église n'a pas le pouvoir de créer l'unité spirituelle. Elle est même dans l'incapacité de le faire. Seul Dieu, le Dieu trinitaire, peut offrir en héritage comme cadeau de grand prix l'unité à l'Église. C'est d'ailleurs le sens de la prière de Jésus. Hein. Il dit « Père Saint, garde-les en ton nom que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous, afin que tous soient un comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous. » Voilà. C'est Dieu qui crée l'unité dans l'Église. Alors, frères et sœurs, c'est une grande responsabilité que Dieu confie à l'Église. Hein. C'est comme un vase de grand prix, hein, que ma grand-mère m'a mis, par exemple, qu'il remet entre les mains de l'Église, des chrétiens de base et des responsables. Comment travaillons-nous à conserver cette unité, hein? C'est Dieu qui nous apporte l'unité, et nous, on doit la conserver, travailler à la conserver. Nous aurons tous et chacun à répondre devant Dieu de l'unité. Nous pouvons avoir des divergences. Ça fait grandir l'Église, les divergences. Hein, on peut avoir des avis différents. On peut avoir des conflits, mais qui doivent être gérés dans l'amour. Hein, on l'avait avec Thierry Jouvet. Mais tout ce qui casse l'unité divise les frères et sœurs et est à proscrire, car nous aurons à répondre de ces divisions. Frères et sœurs, l'unité doit être une priorité de notre Église, et comme l'exemple doit venir d'en haut, et bien prier, vraiment, je vous demande de prier pour les responsables, pour les anciens, pour les conseils, pour les couples, surtout pour les couples aussi, quand il y a des couples solides dans une Église, et bien c'est vrai, l'unité est conservée, afin que l'unité précieuse qui est force de témoignage dans ce monde qui la recherche constamment sans jamais la trouver, et bien règne entre nous à jamais. Amen. Voilà. Je vais prier, si vous voulez, pour terminer. Seigneur, merci parce que tu es vraiment ce Dieu trinitaire qui nous a donné l'exemple, qui fonctionne vraiment en unité. Et toi, Seigneur, par ta puissance, tu nous aides à changer, à nous dépouiller, à nous revêtir. Et tu nous donnes, Seigneur, un cœur nouveau pour vraiment travailler à conserver l'unité que le monde ne peut pas, Seigneur, conserver. Et Seigneur, je te prie vraiment pour l'Église de Vendeuve particulièrement, mais toutes les Églises du monde aussi, que tu bénisses cette unité et que tu permettes, Seigneur, que nous soyons des témoins de l'unité dans le monde dans lequel nous vivons. Bénis ton nom, Seigneur. Amen. Merci.